Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Enfin, après des années d'attente, on peut finalement ouvrir les portes des transports en commun parisiens avec son iPhone. Le Pass Navigo peut maintenant s'intégrer dans Wallet aux côtés des cartes Apple Pay. Comment ça marche? On va voir ça avec Christophe. Dans le reste de l'actu, Microsoft et Qualcomm s'attaquent au MacBook Air, les boutiques alternatives pour iOS connaissent un début compliqué et Apple se justifie sur le bug des photos supprimées qui était bizarrement réapparu. Nous sommes le samedi 25 mai, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas rater. Juste à temps pour les Jeux Olympiques, l'iPhone devient enfin un moyen de paiement pour les transports en commun d'Île-de-France. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, oui, ça va très bien, On a appris que Apple allait peut-être, dans la prochaine version de macOS, revoir les réglages système. Et ça fait plaisir. Et toi, ça va?
Ça va, ouais. T'as prévu de faire un petit tour aux Jeux Olympiques à Paris cet été pour tester Navigo sur iPhone?
Ni Navigo, ni les QR codes, ça va aller. Non, merci.
Non, rien de tout ça?
Non.
Bah écoute, on va en parler quand même, parce que c'est la news importante de la semaine. Apple et Île-de-France Mobilité ont mis les petits plats dans les grands pour le lancement de la carte Navigo sur iPhone. Alors, il y a eu un communiqué de presse de la part d'Apple, une interview de Jennifer Bailey, qui est la responsable d'Apple Pay, et même une démonstration avec Valérie Pécresse en personne, la présidente d'Île-de-France Mobilité. Si cette intégration a mis autant de temps à arriver, c'est parce que les négociations ont été âpres. On sait qu'Apple est dur en affaires quand il s'agit d'accéder à la NFC de l'iPhone, même si elle a fait quelques concessions dernièrement. Alors, Navigo sur iPhone, comment ça marche? Comment on ajoute sa carte et quels forfaits sont disponibles?
Alors, c'est assez simple. Si vous êtes abonné, on vous donne rendez-vous en 2025, voire en 2026. Et puisque cette affaire joue les prolongations depuis le début, peut-être en 2027. On n'est jamais à une surprise près.
Ouais, ça c'est pour les abonnements annuels, ouais.
Voilà, exactement. Si vous n'êtes pas abonné, c'est plutôt assez simple. Pas besoin d'avoir une application. Il suffit de se rendre dans l'application carte et ajouter une carte Navigo. Ensuite, vous choisissez le titre de transport qui vous intéresse, donc si vous voulez un ticket, 10 tickets, si vous êtes une famille nombreuse, ce genre de choses. Vous réglez et c'est parti. Alors, comme ça dit, ça a l'air très très simple et ça l'est sans doute. Par contre, techniquement parlant, il faut un appareil compatible avec iOS 17.5 ou, pour ceux qui ont une Apple Watch, WatchOS 10.5. Donc ça signifie que, si vous avez un iPhone 10, il va falloir changer d'iPhone pour bénéficier de cette possibilité-là. Mmh. Et c'est pareil pour la pauvre Apple Watch Series 5. Alors, on va quand même revenir un peu sur la forme. Cette affaire, elle est quand même un petit peu ridicule. Hein, parce que quand même, voir les acteurs politiques et Apple se gargariser de cette annonce en 2024, il y a un côté un petit peu gênant. Oh là là, on peut payer son billet de transport en commun avec un téléphone. On rappellera quand même que certains smartphones Android le font depuis 2019. Donc voilà, c'est pas hier.
Un autre lancement important cette semaine, ce sont les PC Copilot Plus. Alors Microsoft a dévoilé avec ses partenaires de nouveaux PC qui sont dopés à l'IA. Une des fonctions les plus marquantes, c'est Recall, une sorte de time machine intelligente qui permet de retrouver ce qu'on a fait sur son ordinateur avec une recherche en langage naturel. Pour profiter de ces fonctions, les nouveaux PC ont besoin d'être assez costauds. Ils doivent avoir au moins 16 Go de RAM, donc, ce qui exclurait dans l'univers Apple le MacBook Air, par exemple, 256 Go de stockage, en sachant que Recall prend à lui seul 25 Go, c'est un paquet de stockage, et un moteur neuronal. Alors, un autre fait notable, c'est que les premiers PC Copilot Plus utilisent l'architecture ARM. Ils sont équipés en l'occurrence d'un processeur Snapdragon X Elite. D'après Microsoft, ces PC sont plus puissants que le MacBook Air M3 et ils ont aussi une meilleure autonomie. Est-ce qu'Apple a enfin une concurrence à sa hauteur?
Alors, tout d'abord, j'ai juste une petite question. Il y avait certains portables qui avaient une touche Cortana. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ceux-là?
C'est la valse des touches sur les PC Windows. C'est assez courant, ouais.
Oui, ils sont assez forts à ce niveau-là. Alors, plusieurs choses. Alors, pour savoir si Apple a de la concurrence, moi, je propose qu'on attende de voir les premiers vrais tests et je propose qu'on offre une machine à Pierre qui joue avec pendant 10 ou 15 jours et il nous dira tout ça. Il n'est pas au courant quand il va prendre ça en écoutant le podcast, ouais. Il va adorer.
C'est la surprise.
Alors, comme le plus intéressant dans cette annonce, c'est peut-être que cela marque, je dis peut-être, l'envol des PC ARM. Le puzzle commence à se mettre petit à petit en place. Donc, il y a plus d'apps qui sont optimisées. Il y a un émulateur x86 qui paraît-il est plus performant. Voilà. Et comme tu le disais, pour l'instant, les PC Copilot Plus ne sont disponibles uniquement avec des puces ARM, même si à terme, il y aura également des PC Copilot Plus avec des puces Intel.
Et AMD même.
Et AMD, ouais. Méfiance quand même, parce que les appellations marketing dans le monde PC pour faire décoller tel ou tel usage ou tel système d'exploitation, on en a eu beaucoup par le passé, souvent c'est sans lendemain. Alors, on verra cette fois. Puis à un détail près, je dis bien un détail près, tous les Mac sont quand même des Mac Copilot Plus depuis 2020. Alors, celui qui trouve ce fameux détail, il le dit dans le commentaire et on lui offrira un petit cadeau.
J'ai pas le droit de donner la réponse tout de suite, là.
Non, toi, t'as pas le droit de jouer.
Très bien. Et écoute, on va parler maintenant des
boutiques. J'ai juste un dernier truc à dire.
Vas-y, continue.
Il y a cette fonction recall, là, qui est quand même à la fois intéressante et complètement flippante. Donc, c'est peut-être été le petit fail dans cette affaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de réactions assez négatives, hein, parce que bon, ça pose quand même des questions de vie privée. Comme quoi, cette notion commence à entrer finalement. Enfin, c'est quelque chose que les gens commencent à prendre au sérieux. Mais ceci dit, est-ce que Apple ne va pas finir, comme tu disais, par ajouter un filet d'intelligence artificielle, par exemple, à Time Machine? C'est peut-être quelque chose de possible. On verra.
Et surtout, la fonction Recall, en fait, elle rappelle une app qui est disponible sur Mac, qui s'appelait Rewind et maintenant Limitless, qui fait à peu près la même chose. Sauf qu'évidemment, là, toute la différence, c'est que c'est intégré à Windows. Donc, c'est beaucoup plus accessible pour les utilisateurs. On va parler maintenant des boutiques alternatives qui sont en train d'arriver sur iOS. Alors, elles connaissent des débuts un peu compliqués pour différentes raisons. Un changement dans iOS 17.5 a empêché la réinstallation d'Alt Store, la boutique qui distribue notamment l'émulateur Delta. Autre problème pour Alt Store, les nouvelles apps qui doivent figurer dans ces rayons sont bloquées à une étape de validation par Apple. Et oui, parce que même les apps des boutiques tierces doivent passer un contrôle de sécurité chez Apple. De son côté, cette app a prévenu ses utilisateurs que des applications pouvaient planter dès le démarrage quand elles étaient lancées depuis l'écran d'accueil de l'iPhone. Et une autre difficulté pour les développeurs qui veulent tirer parti du DMA concerne les navigateurs tiers. En fait, les développeurs qui veulent développer des navigateurs avec un autre moteur que WebKit doivent le faire depuis l'Europe. C'est une règle d'Apple, donc évidemment, ce n'est pas forcément évident pour Google ou Mozilla. Donc avec toutes ces complications techniques, on se demande si les boutiques alternatives et les navigateurs autres que WebKit ont vraiment une chance de réussir.
Oh, on est dans ça le mouvement là. Alors, qu'Apple n'y mette pas de la bonne volonté, c'est certain, elle fait quand même beaucoup de choses pour compliquer la vie des développeurs. Après, l'histoire qu'il faut être en Europe pour développer un navigateur iOS, c'est presque une bonne chose. Ça va permettre finalement, Apple va pouvoir se targuer de créer de nouveaux emplois en Europe indirectement. les équipes de Google et de la fondation Mozilla vont devoir peut-être étoffer leur bureau à Paris et dans les autres capitales. Pour en revenir à Altstorm, je ne sais pas quoi dire, parce que quelque part, 100 000 téléchargements pour une boutique qui a deux applications, je trouve ça pas mal, surtout qu'il faut payer, et que les applications, c'est quand même pas... Enfin voilà, ça concerne quand même... C'est pas forcément hyper public. Hyper grand public, pardon.
Delta a fait un petit peu sensation, mais maintenant, on trouve des autres émulateurs sur l'App Store, donc... Évidemment, maintenant, tu n'as pas forcément de killer app quoi, dans Alt Store, j'ai l'impression.
C'est ça, oui. Mais là encore, qu'Apple améliore ses process pour notarier des apps plus rapidement. Alors, je l'ai dit, hein, Apple met certainement de la mauvaise volonté, mais Apple est peut-être aussi contrainte, peut-être par le temps. Tout ce qu'a demandé l'Union européenne, c'est quand même de gros changements. C'est quand même une énorme usine à gaz, App Store Connect et tous les autres briques d'Apple. Donc, il y a plein de process à modifier, il y a plein de changements à faire dans le système d'exploitation. Alors là, est-ce que le planning était pas trop serré? Parce que Apple peut effectivement bien faire tous ces changements, mais alors, d'une, on le sait, enfin, c'est quelque chose qui l'embête. De deux, je pense que dans un premier temps, ça a beaucoup été traité par les équipes juridiques d'Apple et les développeurs se sont mis à travailler dessus assez tardivement avec un cahier des charges pas simple.
C'est surtout ça parce que le DMA, Apple n'a pas appris du jour au lendemain qu'elle allait devoir ouvrir iOS à la concurrence, quoi.
Non, 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 mais bien sûr, mais c'est le cahier des charges à le mettre en application, sachant qu'il y a des choses qui concernent iOS ou qui touchent App Store Connect. Et puis, ben, moi, je crois que, enfin, voilà, il y a aussi un principe de réalité. Enfin, on imagine mal Apple mettre des milliers de développeurs sur le chantier. Ils ont sans doute dû prendre une petite équipe. Mais voilà, on imagine mal que, pour faire plaisir à l'Union européenne, Apple se lance, met toutes ses forces dans la bataille et oublie développer iOS 18, quoi, voilà, ou le Vision Pro. Donc, il y a aussi peut-être tout simplement des affaires de priorité. Bon, c'est sûr que c'est compliqué, ça ressemble un peu à de la bidouille, mais on avance petit à petit et j'ose espérer que, allez, on va dire d'ici la fin de l'année, tout ceci ressemblera à quelque chose. Et malgré tout, 100 000 téléchargements pour App Store, alors même s'il y a un effet de curiosité, je trouve ça plutôt pas mal.
Ouais, puis on peut rappeler que d'ici la fin de l'année, l'iPad aussi sera concerné par le DMA. Donc les boutiques tierces, les navigateurs, autres que WebKit seront aussi autorisés sur iPad.
Voilà, et pour finir, je pense que tôt ou tard, le Japon va y passer.
Effectivement, on voit que petit à petit, les autres pays regardent ça avec beaucoup d'intention. Ouais. On va terminer le tour de l'actu avec des explications bienvenues de la part d'Apple sur un bug très inquiétant qui était apparu avec iOS 17.5. Après l'installation d'iOS 17.5, les utilisateurs avaient vu réapparaître des photos qu'ils avaient supprimées il y a parfois plusieurs années. Alors, inutile de préciser que c'est très gênant, puisque dans les photos supprimées, il peut y avoir des choses qu'on ne voulait vraiment pas revoir. Apple a finalement donné des explications cette semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Donc voilà, juste pour faire un petit récap, lundi, Apple a donc publié iOS 17.5.1.
Oui, qui corrige le problème, ouais.
Voilà, donc, et Apple disait que cette mise à jour corrige un problème rare qui pouvait entraîner la réapparition dans la photothèque de photos corrompues dans la base de données, même si celle-ci avait été supprimée. Donc, par la suite, Apple a donné quelques explications supplémentaires à 9to5Mac, parce que voilà, c'était un petit peu léger, et il y avait beaucoup de gens qui étaient, en tout cas, c'était assez prégnant dans les commentaires, qui étaient très inquiets par ce bug-là. Alors, la première chose, ce bug n'est pas lié à iCloud Photo. C'est un problème strictement local, restreint à un appareil iOS. Donc, des photos ou vidéos n'ont pas été correctement supprimées comme l'utilisateur le souhaitait à un moment donné, et les fichiers correspondants sont restés sur l'iPhone ou l'iPad tout ce temps-là. Et ces fichiers étaient, en quelque sorte, invisibles, et puis ils sont réapparus un peu par magie avec 17.5 qui devait changer sans doute quelque chose dans la gestion des photos. Ce qu'Apple a dit, c'est que ces fameuses photos invisibles, elles ont pu se balader d'un iPhone à un autre grâce aux sauvegardes.
Oui, ça explique des choses aussi, parce qu'on se demandait si c'était pas comme des personnes ont vu apparaître des photos qu'ils avaient supprimées sur d'anciens iPhone, ils pensaient que c'était iCloud Photo qui était en cause, alors que ce n'est pas le cas. Ouais.
Exactement, et c'est ça, voilà, permet de vraiment, on va vraiment insister sur ce point. Apple l'a précisé clairement et l'a répété à plusieurs reprises. Les photos mal supprimées ne se sont jamais retrouvées sur ces serveurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Enfin, sur ces serveurs d'iCloud Photo, hein, en parenthèse, hein, parce que voilà, ça peut...
Il y a la sauvegarde d'iCloud, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Exactement. Alors, sans qu'elle donne de chiffres très précis, elle a dit que ce bug concernait un nombre très faible d'utilisateurs. C'est toujours le problème avec ces affirmations-là. On ne sait pas si on parle de centaines de milliers, de quelques millions d'utilisateurs. Enfin, voilà.
Parce que c'est toujours la même expression, en plus, pour les programmes de rappel. Je me souviens des MacBook Pro, des choses comme ça. C'est toujours un très faible nombre, mais en fait, on n'a aucune idée si c'est 5%, 10%, 15% ou plus, quoi.
Ils ont utilisé la même expression pour les claviers papillons.
Oui, il me semble que oui. Hein, c'est vraiment la même expression à chaque fois.
D'accord. Donc, on va dire des dizaines de millions. Alors, pour ceux qui avaient ce bug-là, les photos en question avec iOS 17.5.1 n'ont pas été supprimées. Elles sont dans la poubelle et disparaîtront automatiquement au bout de 30 jours. Ça, c'est le processus normal pour effacer les photos prises avec l'application d'Apple. Sauf si vous intervenez, évidemment, manuellement. Finalement, il y a quand même une chose qui me dérange un petit peu dans cette affaire, c'est que n'importe quel utilisateur peut se balader pendant... plus de 10 ans avec une base de données. Alors, est-ce que c'est la base de données qui était vérolée ou où elle comportait des éléments vérolés? Ça, j'en sais trop rien. Mais de se dire qu'on se retrouve avec des éléments vérolés en plus dans une application plutôt sensible comme photo, et qu'il n'y a pas de mécanisme qui, de temps à autre, regarde que tout marche bien, moi, ça m'a, quelque part, ça m'interroge.
Bah écoute, en tout cas, pour ce bug-là, voilà, a été déniché, puis finalement corrigé, a priori. Voilà, on espère ne pas revoir de photos supprimées et apparaître comme ça, comme par magie. C'est sûr, ça fait bizarre, ouais. Bah écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous, et si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur l'application podcast.
Tout à fait, ouais. Et à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut.
Ciao, ciao.